Vous écoutez, on lit pour vous.
Le froid ralentit la guérison, selon une nouvelle étude. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 17 mai 2026 dans La Presse. Doit-on mettre du froid sur une foulure? Après un retrait des dents de sagesse? Une nouvelle étude de l'Université McGill remet en question des pratiques cliniques très répandues. Deux études. Le froid ralentit la guérison des blessures musculaires, selon une nouvelle étude publiée début mai 2026 par le neuroscientifique Jeffrey Mogill de l'Université McGill dans la revue Anesthesiology. Nous avons montré en 2022 qu'un traitement standard pour des blessures qui donne de la douleur au bas du dos, c'est-à-dire l'utilisation des médicaments anti-inflammatoires, augmente le risque de douleur chronique, dit M. Mogill. L'un de nos collègues, un physiothérapeute, nous a parlé d'un autre traitement standard, le froid sur le site de la blessure. Le raisonnement est que le froid diminue l'inflammation. Mais si bloquer l'inflammation nuit à la guérison, le froid ne devrait pas aider. Nous avons décidé d'étudier cette question. Les chercheurs de McGill ont fait l'étude sur le froid sur des souris qui avaient une blessure à un muscle à cause d'un exercice trop grand. L'application de froid était faite en trempant leurs pattes dans un petit récipient d'eau à 4 degrés Celsius. Les souris qu'on laissait tranquilles guérissaient en une à deux semaines. Celles qu'on traitait avec du froid avaient une convalescence de 3 à 4 fois plus longue, atteignant parfois 40 jours. Ce sont des résultats très clairs, dit M. Mogill, qui étudie la douleur depuis 30 ans. L'étude de 2022, publiée dans la revue Science Translational Medicine, avait conclu que donner des médicaments anti-inflammatoires augmentait la probabilité qu'une blessure musculo-squelettique au bas du dos deviennent une douleur chronique 3 mois plus tard. Le traitement standard après une telle blessure au bas du dos est de prendre des médicaments anti-inflammatoires sous ordonnance ou en vente libre, note M. Mogill. En tenant compte des résultats de 2022, M. Mogill pense que les résultats pour le froid qu'il a obtenu chez la souris, sont applicables aux humains. Ce sont les mêmes processus d'inflammation et de guérison. Musculo-squelettique. Les traitements musculo-squelettiques aux tendons, aux muscles ou aux ligaments, par exemple, sont l'un des parents pauvres de la médecine. Les blessures musculo-squelettiques sont très compliquées et très souvent pas très bien traitées, dit M. Mogill. Souvent, le patient a des avis contradictoires, change d'approche en réadaptation, parce qu'il a l'impression que ça ne change pas. Une constante, c'est qu'on recommande, la plupart du temps, de mettre du froid et de prendre des médicaments anti-inflammatoires au début. Si, comme nous le montrons, ça nuit à la guérison, il faudrait que cette recommandation, juste après la blessure, soit modifiée. Pourquoi l'inflammation survient-elle dans les blessures musculo-squelettiques? A priori, c'est pour amener le système immunitaire sur le site d'une blessure, pour combattre les microbes qui peuvent en profiter pour pénétrer dans le corps, dit M. Mogill. Dans le cas des foulures ou autres blessures musculo-squelettiques, il y a une inflammation stérile. Il n'y a pas de bactéries. Nous ne comprenons pas encore tout le rôle du système immunitaire. Il se peut que le système immunitaire contribue à éliminer les cellules endommagées par la blessure qui peuvent être toxiques. Les chercheurs de McGill ont montré que chez l'humain, une molécule du système immunitaire appelée neutrophile entre en jeu quand il y a de l'inflammation stérile après une blessure musculo-squelettique. L'action des neutrophiles réduit le risque que la douleur chronique s'installe. Ils ont aussi mis au jour le même processus chez la souris et observé que les neutrophiles relâchent des protéines appelées S majuscule 100 A majuscule 8 barre oblique A majuscule 9, qui facilite aussi la guérison musculo-squelettique et diminue le risque de douleur chronique. Chaud. Qu'en est-il du chaud? Cette avenue a aussi été testée en trempant les pattes des souris dans de l'eau à 40 degrés Celsius. Il n'y a pas eu d'effet sur la durée de la guérison. Les chercheurs de McGill ont aussi testé l'alternance froid-chaud. Elle pourrait être la meilleure option. Le froid est analgésique. Il diminue la douleur aiguë, dit M. Mogill. En alternant avec la chaleur, on permet à l'inflammation de faire son travail parce qu'elle n'est pas entravée trop longtemps par le froid. Et l'inflammation permet de réduire le risque de douleur chronique. Y a-t-il eu des changements cliniques depuis l'étude de 2022 et qui montrait l'impact négatif des médicaments anti-inflammatoires sur la guérison des foulures et autres blessures musculo-squelettiques? Je pense que tout le monde attend une étude clinique pour montrer que le froid allonge la réadaptation après une blessure musculo-squelettique, dit M. Mogill. Je suis surpris qu'aucune n'ait été proposée. Ça ne serait pas très compliqué à mener. Y a-t-il eu des critiques scientifiques de son étude de 2022? Non. Même si c'est contre-intuitif pour la plupart des gens dans le domaine de la médecine, dit M. Mogill. J'ai vu les commentaires négatifs habituels voulant qu'on enlève une autre option aux opioïdes. En effet, il ne reste que le Tylenol. Les médecins aiment avoir plus qu'une option. Deux revues de littérature en 2023 et 2024 ont cité l'étude de 2022 de M. Mogill comme l'une des avenues les plus prometteuses en ce qui concerne la recherche sur la douleur chronique. Quelles sont les questions de recherche prioritaires dans ce domaine? Il faut mieux comprendre les mécanismes impliqués dans l'inflammation non stérile, dit M. Mogill. La première étape est la protéine S100A8A9. Mais il y a probablement un processus très long par la suite qui s'étire sur des jours et des semaines. Les blessures musculo-squelettiques sont très compliquées et souvent très maltraitées. Il faut changer cela. Dents de sagesse. M. Mogill a aussi lancé une étude sur des patients ayant des enlèvements de dents de sagesse. En général, il y a une recommandation de mettre du froid sur la blessure pour diminuer l'inflammation, dit-il. Nous voulons voir si ce que nous avons trouvé en 2022 et en 2025 s'applique à ce type d'inflammation aussi, dans le cas de l'ablation de dents de sagesse, il y a une dimension antimicrobienne à l'inflammation, note-t-il. En savoir plus. Source: Osteoarthritis and Cartilage. 15,5% proportion de la population canadienne qui a des douleurs au bas du dos. 3,5% proportion de la population canadienne qui a des douleurs au cou. C'était « Le froid ralentit la guérison » selon une nouvelle étude. Un texte de Mathieu Perrault paru le 17 mai 2026 dans La Presse.
Le coûteux problème de l'Occident. Un texte de Nicolas Bouzou, paru le 11 mai 2026 dans La Presse. Aucun pays au monde n'est satisfait de son système de santé. Dans toutes les démocraties, les gens râlent. Les Québécois se désespèrent du nombre d'heures à attendre aux urgences. Au Québec, la durée moyenne de séjour est de près de 17 heures et elle monte à 19 heures à Montréal. Aux États-Unis, c'est le coût des assurances maladie qui fait débat. Des familles avec des enfants doivent consacrer plus de 25 000 $ par an à ces assurances. Et si par malchance elles doivent recevoir un traitement contre un cancer, il existe encore parfois des plafonds de remboursement qui peuvent amener les hôpitaux à interrompre les soins. La France fait quant à elle face à un problème de désertification médicale avec des délais d'attente pour certains spécialistes, en gastro-entérologie ou en dermatologie par exemple, qui se comptent en mois. Ce mécontentement légitime signifie qu'aucun pays n'a trouvé le système de santé parfait. À peu près partout, l'accès au système de santé est long et compliqué. À peu près partout aussi, il est de plus en plus coûteux. Au-delà de l'organisation des soins, les systèmes de financement de la santé sont également très différents d'un pays à l'autre. Dans certains endroits, les assurances privées et publiques couvrent une grande partie des dépenses. Le pays le plus avancé en la matière est la France. Dans mon pays, moins de 10 % des dépenses de santé sont directement payées de la poche des patients. Mais même quand la solidarité est forte, cela pèse sur le pouvoir d'achat des ménages, car les cotisations d'assurance augmentent plus vite que les salaires et l'inflation. En France, les parlementaires débattent souvent de la façon de freiner les cotisations d'assurance maladie. Au Québec, la hausse du coût de la santé est moins visible. La santé est payée en partie par des cotisations sur les salaires, mais l'argent vient surtout du budget provincial et, dans une moindre mesure, de transferts fédéraux. Il est logique que l'organisation de la santé soit particulièrement compliquée. En effet, la santé n'est pas un domaine comme les autres. Il se doit d'être équitable. Tout le monde doit avoir accès au système, quelles que soient les situations personnelles, financières ou géographiques. Et efficace. Il faut réduire les délais d'attente, faire bénéficier les patients des nouvelles technologies, tenir des équilibres financiers. Il faut donc, en théorie, l'efficacité de marché et la pertinence d'une juste régulation. Mais dans la pratique, équité et efficacité sont difficilement conciliables. Mais il y a un autre défi, en surplomb de ces arbitrages en équité et efficacité, auquel il faut réfléchir en profondeur et qui doit guider les politiques publiques. Partout dans le monde, les dépenses de santé augmentent vite. Au Québec, le rythme de croissance annuel est d'environ 7 %. C'est énorme. Le gouvernement québécois cherche à ramener ce chiffre à 3 %, un ralentissement colossal. En France, les dépenses augmentent de 2 à 3 % par an, mais au prix de rationnements douloureux et de baisse de prix des médicaments qui diminuent de façon excessive les marges de l'industrie. Et ce contrôle n'est pas suffisant, puisque l'assurance maladie publique française souffre toujours de déficits financiers chroniques. La hausse des dépenses de santé est liée au vieillissement de la population, au coût de l'innovation et à l'envol des maladies chroniques. C'est sur ce dernier point que les pays peuvent agir. Près de 70 000 personnes reçoivent chaque année un diagnostic de cancer au Québec, d'après des chiffres de 2025 du Registre national du cancer. La prévalence de l'obésité a doublé en 25 ans, entre 1990 et 2013, d'après l'Institut national de santé publique. et 12 % des Québécois âgés de 20 ans et plus ont reçu un diagnostic de diabète, 24 % des plus de 65 ans, chiffre du ministère de la Santé. Si rien ne change, au Québec comme ailleurs, le coût de la prise en charge des maladies chroniques va augmenter de façon exponentielle. Disons-le clairement, l'essor des maladies chroniques en Amérique et en Europe n'est financièrement pas tenable. C'est évidemment un problème de santé publique, mais aussi un problème économique majeur. Autrement dit, la prévention doit devenir une politique prioritaire dans les pays développés. On parle de prévention primaire, faire du sport, arrêter de fumer, diminuer l'alcool et les produits sucrés, et secondaire, bien faire ses dépistages et ses vaccins. Ces actes de prévention ne sont pas simplement des actes de santé, mais des actes économiques pour rendre notre système de santé soutenable. À l'ère des maladies chroniques, protéger sa santé, c'est aussi protéger l'économie. C'était « Le coûteux problème de l'Occident », un texte de Nicolas Bouzou, paru le 11 mai 2026 dans la presse.
Notre science pour soutenir notre avenir. Un texte de Frédéric Bouchard, paru le 12 mai 2026 dans la presse. La deuxième semaine de mai 2026 à l'Université du Québec à Trois-Rivières a eu lieu le 93e congrès de l'ACFAS, le plus grand congrès scientifique multidisciplinaire en français dans le monde. C'est beaucoup plus qu'une affaire d'universitaire. D'abord, beaucoup de recherches se fait avec des partenaires communautaires, industriels et gouvernementaux. Ce congrès nous permet donc de prendre la mesure de l'inventivité et du talent qu'il y a partout au Québec, autant en recherche qu'en innovation. Comment utiliser l'intelligence artificielle, IA, de manière responsable pour améliorer nos services municipaux? Quelles sont les meilleures pratiques pour améliorer la récupération après une intervention chirurgicale ou la prévention en santé? Comment améliorer la productivité du secteur bioalimentaire en réduisant le gaspillage? Comment soutenir la découvrabilité de la culture québécoise par de nouvelles approches numériques? Dans chaque conférence, on a vu des idées pour soutenir notre émancipation, notre bien-être et notre prospérité. Notre science d'ici reste le meilleur instrument pour nous assurer que nous pourrons construire l'avenir plutôt que le subir. Dans tous les domaines, les chercheurs québécois renforcent nos collectivités et nos régions tout en se démarquant à l'échelle mondiale. Certains succès scientifiques récents nous rappelle d'ailleurs que le Québec n'est pas juste présent, mais est capable d'atteindre les plus hauts sommets. Pensons par exemple à Gilles Brassard de l'Université de Montréal qui vient tout juste de remporter le prix Turing, le prix Nobel de l'informatique. Des années de recherche fondamentale et appliquée en informatique et en cryptographie quantique effectués par lui et de nombreux chercheurs un peu partout au Québec, nous permettront d'assurer notre prospérité et notre sécurité collective dans l'informatique de demain. Nous avons réellement de quoi être fiers de ce qui se passe sur nos campus, mais malgré nos succès, le défi s'est transformé. En début d'année, l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, nous a appris que la Chine investit plus en recherche et développement, R&D, que les États-Unis, jusqu'ici le champion mondial des investissements scientifiques. Ensuite, un rapport de la Commission européenne notait avec inquiétude que la société Amazon investirait cette année plus que l'Allemagne, le champion européen en recherche. Ces transformations sont majeures. Plus que jamais, les pays et les entreprises les plus ambitieux comprennent que leur avenir passe par la recherche et l'innovation. Une urgence renouvelée. Face à des compétiteurs de telle taille, face au dérèglement de l'environnement, face à l'accélération frénétique de l'IA et face aux vulnérabilités de nos démocraties, assurer notre vigueur scientifique trouve donc une urgence renouvelée. La seule manière de rester maître chez nous est de nous assurer que nous avons nos propres talents pour écrire notre histoire, pour tirer profit avec discernement de nos trésors naturels, pour développer nos propres entreprises, pour soutenir l'épanouissement humain en fonction de nos propres valeurs. Ces talents essentiels à notre avenir sont formés aujourd'hui même dans nos équipes de recherche, sur nos campus et dans nos laboratoires. Le choix est simple. Nous pouvons générer du savoir et de l'innovation et en profiter, ou consommer de l'innovation dictée ailleurs et nous faire exploiter. Malgré l'ampleur des défis, la très bonne nouvelle est que le Québec scientifique a déjà des atouts uniques. Nous avons un système d'enseignement supérieur vigoureux avec nos universités et nos cégeps déployés partout sur le territoire et qui sont des piliers d'une société apprenante. Nous avons des outils ambitieux pour développer la recherche et l'innovation avec le Fonds de recherche du Québec, le Conseil de l'innovation et la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation. Nous avons une tradition de recherche partenariale innovante, entre autres avec les Centres collégiaux de transfert de technologie, CCTT. Le programme de soutien comme les actions concertées du Fonds de recherche du Québec et la recherche d'avant-garde avec les établissements de santé et les organismes communautaires. Notons que le Québec est la seule province à s'être dotée de tels instruments et qu'il nous positionne très bien au pays et à l'étranger pour déployer une innovation responsable dans nos vies. Mais, pour grandir plutôt que survivre face aux grandes entreprises et aux empires, il faudra rehausser nos ambitions pour la recherche et l'innovation et surtout mieux soutenir notre relève. Pourquoi ne pas amplifier notre recherche partenariale afin que plus de PME et d'organisations recrutent nos étudiants-chercheurs? Pourquoi ne pas mieux déployer notre recherche interdisciplinaire afin d'avoir de meilleures politiques publiques et des services plus efficients? Pourquoi ne pas élargir nos partenariats en innovation et en commerce dans le monde autour de notre présence enviable en diplomatie scientifique? Notre souveraineté culturelle, numérique et économique, notre bien-être et notre santé, et notre capacité à décider et à agir seront de plus en plus soutenus par nos chercheurs. Heureusement, nous sommes déjà bons en recherche et innovation, mais nous avons le potentiel et la responsabilité de devenir meilleurs. Pour nous assurer un avenir heureux, nous devrons tous devenir plus ambitieux pour le savoir, pour son déploiement et pour ses artisans. C'était « Notre science pour soutenir notre avenir », un texte de Frédéric Bouchard paru le 12 mai 2026 dans la presse.
Panneaux solaires flottants pour Hydro-Québec, un texte d'Hélène Barry, paru le 9 mai 2026 dans la presse. Il me semble que des panneaux photovoltaïques installés sur les réservoirs d'Hydro-Québec seraient une idée intelligente. Pas de nouvelles lignes de transmission requises, aucune pollution supplémentaire due à de nouveaux harnachements de rivières, etc. Nous avons plus d'ensoleillement que l'Allemagne, qui produit une part importante de son électricité avec des panneaux solaires. Est-ce que je fais fausse route? Se demande Régent Trottier. Le solaire flottant n'existe pas au Québec, mais cette technologie est en développement à travers le monde. L'installation de panneaux solaires sur des îlots flottants sur des plans d'eau non exploités permet de produire de l'électricité sans empiéter sur des espaces qui peuvent être utilisés à d'autres fins, pour l'agriculture, par exemple. Le producteur québécois d'énergie, Boralex, en a installé dans une ancienne carrière du sud de la France. Son premier parc solaire flottant a été mis en service en 2022. Alors, pourquoi ne pas en installer sur les grands réservoirs d'Hydro-Québec, demandez-vous? C'est une question intéressante, selon François Bouffard, ingénieur et professeur au département de génie électrique et de génie informatique de l'Université McGill. En théorie, ce serait possible, dit le spécialiste. En revanche, ce ne serait pas nécessairement une bonne idée. Notre climat et nos besoins en électricité ne permettent pas de tirer le meilleur parti du solaire flottant, selon lui. Il faudrait retirer les quais flottants l'hiver venus pour éviter les dommages causés par la glace, explique-t-il. Considérant que l'électricité produite l'hiver est celle qui possède la plus grande valeur au Québec, ce ne serait pas un investissement intéressant. Les panneaux solaires installés sur la terre ferme sont une meilleure option, selon lui. Optimiser les réservoirs autrement. Cela dit, le spécialiste suggère un autre moyen d'optimiser la valeur des grands réservoirs d'Hydro-Québec. On pourrait y installer des éoliennes de grande puissance comme on le fait dans les parcs éoliens en mer, offshore. Ces éoliennes ont un facteur d'utilisation plus élevé. Autrement dit, elles sont plus performantes que les éoliennes terrestres, précise-t-il. Installées dans les réservoirs d'Hydro-Québec, ces éoliennes produiraient de l'électricité toute l'année à proximité des centrales hydroélectriques et des infrastructures de transport existantes. Cette possibilité fait probablement partie des options sur la table chez Hydro-Québec, qui veut augmenter sa production par tous les moyens possibles. Quant à la filière solaire, elle en est encore à ses balbutiements au Québec, mais elle prend de la vitesse. Hydro-Québec offre des subventions aux particuliers et aux entreprises pour l'installation de panneaux photovoltaïques. Le premier appel d'offres pour l'achat de 300 MW d'énergie solaire lancé par la Société d'État a généré de l'intérêt dans tout le Québec. 60 projets totalisant 500 MW ont été soumis et font actuellement l'objet d'une analyse. C'était « Des panneaux solaires flottants pour Hydro-Québec », un texte d'Hélène Barry paru le 9 mai 2026 dans La Presse.